nous disions à la fin de la matinée que le principe de l'enlèvement était déjà bien établi, bien révélé, puisque des hommes comme Hénoc, Élie et le Seigneur lui-même ont été enlevés. À l'Église proprement dite, selon le Nouveau Testament, se joindront tous ceux qui auront part à la première résurrection, de quelque période des temps qu'ils soient. Ce sont ceux que l'apôtre Paul appelle les morts en Christ, car la mort en Christ a elle aussi une possibilité rétroactive. Différentes parties de l'Ancien Testament et du Nouveau peuvent le montrer. Daniel chapitre 12, verset 1, nous dit ce que voici. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Voilà déjà ce que nous disait le livre de Daniel. Quant au livre des Hébreux, il nous montre bien que l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas seulement l'Église du Nouveau Testament. Voyons Hébreux chapitre 11 et nous lisons verset 39. Tous ceux-là, c'est-à-dire la nuée de témoins, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ben, nous allons tous, nous l'avons dit, à la perfection, mais eux aussi. Seulement, Dieu ne voulait pas qu'ils nous devancent, bien que nous venons après eux. Voilà. Alors donc, s'ils n'ont pas obtenu, il faut bien qu'ils obtiennent. Nous les faisons patienter, nous les retenons. Ils étaient en position, eux, de parvenir à la perfection, et puis nous les retenons, n'est-ce pas? Bon, ils ne nous en veulent pas du tout, mais quand nous allons vers la perfection, eh bien, eux aussi, ils y vont. Les nuées de témoins, donc, la nuée de témoins ne doit pas parvenir sans l'Église à la perfection. Mais quand l'Église quitte la terre, ces témoins n'ont plus à se trouver maintenus en attente, et ils partent eux aussi. Les membres du corps de Christ présents sur la terre, les vivants, comme dit l'apôtre Paul, seront changés en un clin d'œil. Ah, l'histoire du clin d'œil. Voilà encore quelque chose qui est vu de travers. Pache nous dit que le rassemblement des élus se fait en un clin d'œil. Je ne sais pas où il a vu ça, mais ce n'est pas le rassemblement. Le rassemblement peut demander s'inscrire dans le déroulement du temps, il se fait sur la terre. Et il peut demander un certain temps, ça peut être bref, mais ça peut demander quand même du temps. Ce n'est pas ça qui se fait en un clin d'œil. Ce qui se fait en un clin d'œil, c'est le changement, pour ceux qui sont vivants, le changement de corps, le changement de nature. C'est ça, nous allons le voir en somme dans le texte, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, c'est-à-dire nous, les chrétiens, ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous voyez que le clin d'œil, c'est pour le changement. Et pourquoi le clin d'œil là? Eh bien, c'est parce que ce changement, une sorte de transmutation, si vous voulez, ce changement est un acte créateur. Et les actes créateurs sont intemporels. C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans la marche du temps, ils ne consomment pas de temps. Étant hors du temps, les actes sont hors du temps. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la création, telle que la Genèse nous la montre, nous voyons, il y eut un soir, il y eut un matin. En somme, la semaine de la création se trouve divisée en jours. Les uns ont voulu que ce soit de longues époques, mais il y eut un soir, il y eut un matin. Ce sont des jours que Dieu met en place déjà des jours. Mais au cours d'un jour va se produire un acte créateur. Par exemple, que la lumière soit, la lumière fut. Mais Dieu n'a pas besoin de temps, n'a pas besoin d'une longue époque pour ça. Pas du tout, parce que cet acte créateur est un acte intemporel, et tous les autres actes sont de même intemporels. Un acte de Dieu, un acte créateur de Dieu, est un acte qui ne consomme pas de temps. Alors, le soir et le matin, c'est en somme un compartimentage de jours qui isole les actes créateurs les uns des autres. Parce que si on les avait mis tous ensemble sans intercaler un soir et un matin, eh bien, il y aurait la lumière, la séparation des eaux, l'apparition de les luminaires, les animaux, l'homme, etc. Tout ça aurait fait bloc. Et il fallait que ces actes soient montrés séparés. Ils ont été séparés. Dieu les a séparés. Mais cela nous est exposé par ce moyen du soir et du matin. C'est tout simplement ça. Mais les actes créateurs sont intemporels. Par conséquent, le clin d'œil nous dit tout simplement que le changement de corps, pour ceux qui seront présents sur la terre au moment de l'enlèvement, ce changement ne nécessitera absolument pas de temps. Mais le rassemblement, lui, ce n'est pas un acte créateur, ça, n'est-ce pas? Alors le rassemblement demandera le temps qu'il faudra, n'est-ce pas? Nous avons vu que les anges moissonneurs se glisseront. Un jour, je racontais, enfin c'était dans les débuts de Père Guillot, ça, racontait ma petite histoire qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. Je disais, vous savez, je vais la reprendre, ma petite histoire, parce que j'y tiens. Je disais, n'est-ce pas, un jour, là, dans notre ville, des ombres se glisseront, il sera, mettons, 10 heures du soir, des ombres se glissent dans les rues. Personne ne prend garde à cela, pas même les passants. Des ombres sont là, ce sont les anges envoyés par le Seigneur. Le Seigneur, il est en haut dans les airs, il envoie ses anges. Et ses anges rassemblent les élus. Les élus, ils sont dans leur maison, ils les rassemblent. Et naturellement, les anges ont reçu des instructions du Seigneur. Alors moi, j'inventais quelque chose pour exprimer mon idée. Et je disais, les anges ont reçu pour instruction de leur Seigneur d'appeler, naturellement, les chrétiens, les membres de l'Église qui sont prêts, qui l'attendent, pas les autres, ceux-là seulement. Et alors, je disais, le Seigneur aura donné pour consigne aux anges, si vous voyez de mes enfants qui sont dans un bon fauteuil, en train de voir un film à la télévision, ne les dérangez surtout pas, ne les dérangez pas, laissez-les, n'est-ce pas? Alors ça déplut souverainement, je ne sais pas si ça vous déplaît, mais, chers amis, je voulais montrer par là qu'il fallait être prêt, que l'ange ne va pas rentrer, sonner à la porte, et puis, d'ailleurs il peut très bien rentrer sans sonner, et puis alors dis donc toi, allez, sors un peu de ton fauteuil, parce que c'est le moment de partir. Non, il faudra être prêt. Et si l'on est appâté, tenu par si on se régale des choses du monde, on n'est pas prêt. Voilà surtout ce que je voulais exprimer. Si on se régale des choses, si on est dans le régal des choses du monde, n'est-ce pas? J'apprends qu'il y a des chrétiens qui vont, par exemple, dans des soirées où il y a des chanteurs modernes. Je sais même que la place leur coûte 140 francs. Hein? Oui, bon, il y en a qui y vont, j'ai appris cette chose malheureuse, n'est-ce pas? Des chanteurs à la mode. Ça leur donne le goût de la chanson à la mode, mais oui, il y a des gens qui vont dans ces concerts-là, n'est-ce pas? Bon, eh bien, quand ils sont dans le concert-là, moi je ne prends pas de décision, mais je dis, j'ai peur pour eux que les anges ne viennent pas les chercher dans le zénith, n'est-ce pas? Dans le concert où ils sont en train de se régaler. Le régaler, c'est le mot que j'ai ici dans ma serviette pour le festival de Hollande, n'est-ce pas? Il y a des artistes qui sont présentés, des artistes chrétiens, n'est-ce pas? À les écouter, à les entendre, on se régale, il paraît. On se régale. Hein? Alors, moi, je ne vois pas qu'on puisse être chrétien quand on se régale des choses du monde, n'est-ce pas? Je ne vois pas ça du tout, ça c'est une hérésie. Bon, alors donc, les membres du corps de Christ présents sur la terre, les vivants, l'apôtre Paul dit que les morts en Christ ressusciteront afin d'être enlevés, de participer à l'enlèvement. Ben, si ce sont les morts en Christ, il faut que ce soit aussi les vivants en Christ, ceux qui vivent en Christ. Or, chers amis, vivre en Christ, c'est pas n'importe quoi. Vivre en Christ, je ne peux pas en faire l'étude maintenant, mais c'est vivre dans une communion réelle, profonde et continuelle avec le Seigneur Jésus. C'est ça, vivre en Christ. Alors ce sont ceux-là qui seront enlevés. Ceux qui ont un pied dans le monde, un pied dans l'Église, comme on dit quelquefois, moi je ne prends pas de décision à leur égard, mais je dis... Alors là, point d'interrogation, je ne sais pas. Ceux qui sont prêts quittent le corps tiré de la terre pour revêtir le corps céleste qui ne peut plus, lui, mourir. Le moment de l'enlèvement des croyants sépare deux destinées absolument opposées. Il y a deux destinées, il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Deux destinées. Jusque-là, les croyants... Et les rebelles, c'est-à-dire toute la partie païenne, si vous voulez, de la terre, les rebelles partagent l'existence de la terre et sont exposés aux mêmes dangers. Toutefois, les croyants ont la protection de Dieu que n'ont pas les autres. Mais malgré tout, n'est-ce pas, nous sommes sur le même bateau, sur le même vaisseau. Notre Terre est un vaisseau qui évolue dans le cosmos, Bon, nous savons bien qu'il a une trajectoire, mais enfin, il évolue là dans le vide, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes emportés, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il naviguait dans l'intention de se rendre à Rome, et était avec tous les autres passagers dans le bateau qui faisait naufrage. Ben, il était emporté lui aussi dans le naufrage. Seulement, Dieu a voulu, naturellement, le sauver, lui et les autres. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a permis à tous les hommes qui étaient sur le bateau d'être sauvés. Mais l'enlèvement met fin à cette cohabitation. L'enlèvement y met fin. Les croyants partent vers le haut et les autres s'enfoncent dans les ténèbres et dans le temps des terribles convulsions de la faim. Voilà, n'est-ce pas? Nous marchons ensemble avec le monde, nous allons ensemble, n'est-ce pas? Et puis à un moment, quand c'est le moment de Dieu, voilà. Voilà ce que ça fait, n'est-ce pas? Et comme nous voyons actuellement toute la société humaine en train de sombrer, alors nous ne pouvons pas sombrer avec eux, si même la descente est amorcée et que nous soyons, ayant les pieds sur cette terre, soyons un peu emportés vers le commencement de la descente, ça prouve une chose, c'est que la séparation est proche. La séparation ne va pas tarder. La grande question qui se pose, et alors que, chose extraordinaire, moi qui connais l'Église depuis des décades, n'est-ce pas, je m'aperçois d'une chose, c'est que l'interprétation de cette parole, l'un sera pris, l'autre laissé, varie avec les moments de l'Église. Quand l'Église est véritablement fidèle et ardente, scellée, n'est-ce pas, quand elle est vraiment sous la puissance de l'Esprit, alors là, elle voit les choses avec rigueur. Et puis alors après, quand s'affadit, quand la foi commence à s'éteindre, quand le monde entre au milieu de l'Église, alors à ce moment-là, on fait des concessions, on se dit, bon, oui, l'un sera pris et l'autre laissé. Bon, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé, il dit. Mais oui, mais ça, vous voyez, c'est un ménage, par exemple, n'est-ce pas? Eh ben, l'un est un chrétien, puis l'autre un inconverti qui n'a pas voulu. Alors, celui qui est laissé, dit-on, c'est l'inconverti. Mais vous faites dire au Seigneur Jésus une sottise. C'est grave de faire dire à Jésus une sottise. Comment le Seigneur Jésus aurait-il pu prononcer cette parole qui aurait signifié que l'un sera pris, l'autre laissé, celui qui sera pris c'est le converti, et celui qui sera laissé c'est l'inconverti. Mais ça va de soi que l'inconverti soit laissé à ça, je ne sais pas moi. On n'a pas besoin de le dire ça, n'est-ce pas? Mais ce qui est particulier, ce vers quoi le Seigneur attire notre attention, c'est que de deux personnes qui croiront peut-être toutes les deux être susceptibles de partir, l'un seulement sera pris et l'autre laissé. Voilà ce que veut nous dire le Seigneur Jésus. Attention, il nous dit attention. De deux personnes qui moudront ensemble, qui travailleront ensemble, de deux hommes qui seront ensemble dans les champs pour travailler, deux amis, deux frères, le père et le fils peut-être, ils sont là, eh bien, l'un sera pris, l'autre laissé. Pourtant, tous les deux, ils vont peut-être le dimanche à l'assemblée. Alors, c'est ça que le Seigneur ne fait pas la catégorie converti ou inconverti, là. Il ne fait pas de catégorie. Il dit de deux personnes. Là, ce sera un couperet. Il n'y aura plus à discuter, il n'y aura plus à prier, il n'y aura plus à implorer, il n'y aura plus rien à faire. Hein, c'est exactement comme l'entrée dans la salle des noces, dans la parabole des vierges. Alors les autres vierges, celles qui sont allées, ont couru dans les rues pour trouver de l'huile au dernier moment, elles viennent à la porte, « Seigneur, ouvre-nous !»« Allez, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Ça, c'est quelque chose de terrible, mais c'est fait. À ce moment-là, le jugement est rendu, le triage est fait, et on ne peut plus y revenir. Maintenant, nous pouvons revenir, maintenant encore, tant que les anges ne sont pas là pour moissonner. Nous pouvons y revenir. Si, par exemple, quelqu'un, n'est-ce pas, regarde un peu sa marche, sa situation, et puis dit, je ne suis pas sûr d'être prêt, pas sûr d'être prêt. Bon, ben, allez, à partir de cette minute, prépare-toi, vite, vite, prépare-toi et reste prêt et demeure prêt. C'est encore possible, mais au moment où les anges sont là, c'est impossible. Et nous pourrions demander, par exemple, ce que signifie la parabole de l'ivraie et de la bonne semence de Matthieu 13. C'est le chapitre des paraboles sur le royaume des cieux. Alors, je prendrai au verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et au verset 36, nous lisons, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Tous les scandales, c'est-à-dire ceux qui sont à ce moment en scandale. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur ne veut pas que l'on sépare le froment et l'ivraie avant le temps, avant la moisson. Ce serait exercer un jugement qui n'appartient qu'à Dieu. Nous n'avons pas sur la terre, nous, hommes, ceux qui ont charge de ministère, n'ont pas le pouvoir de juger, n'avons pas de jugement à prononcer, attention. Hein, et que fois on pose des questions, mais croyez-vous que telle catégorie de gens seront sauvés ou telle autre, etc. Moi, je ne peux pas répondre à de telles questions, c'est un jugement. On ne peut pas se prononcer de jugement. Alors, par force et par persécution, des âmes pieuses et fidèles ont été quelquefois dans l'Église arrachées ou exclues. Oui, des âmes pieuses, fidèles, le blé a été arraché de l'Église et l'on a ainsi désobéi au maître. Il y a des gens qui ont été mis à la porte de l'Église. Il n'y a qu'à voir les ouvrages de Finet pour voir que même dans le milieu de l'Église, celui qui vit saintement, pieusement, est quelquefois persécuté par son propre milieu. Alors on a désobéi, là aussi on a arraché du blé avant le temps. Voyez-vous ? Donc par conséquent, ce n'est pas à nous de prononcer ce jugement, ce n'est pas à nous de faire ce travail, c'est les anges qui vont le faire. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et puis bien sûr, ce que ne peut pas montrer la parabole de l'ivraie et du blé, c'est qu'il est tout à fait possible, tant que la moisson n'est pas là, que l'ivraie se change en blé. Là, c'est l'intervention de la puissance de Dieu. Alors, les passages de Matthieu, c'est-à-dire celui que je vais vous lire, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils enverront ses élus, ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez, la moisson s'étendra sur toute la terre. Les anges seront partout. Partout. Alors, ces passages nous indiquent que les anges moissonneurs rassembleront les élus de Dieu au son de la trompette retentissante sur l'ensemble de la terre. Ce sera ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, a dit le Seigneur, ou le matin. Sera à, évidemment, ça ne peut pas être à la même heure partout sur la terre, hein, puisque la terre est ronde. Deuxièmement, ensuite, un triage aura lieu. L'un ou l'une sera prise, l'autre laissée. Ce triage ne tiendra aucun compte des liens de ce monde. Jésus nous a montré cela, n'est-ce pas ? Aucun compte des liens de ce monde. C'est l'absolu de la décision divine qui tranchera entre ceux qui partiront et ceux qui resteront. J'ai parlé de la petite brochure, il y a un frère qui l'a lu tout à l'heure, l'un sera pris, l'autre laissé, la petite brochure d'Anto Marquis. Moi, je trouve que cette petite brochure a son utilité parce que elle fait réfléchir sur la question. Vous n'avez pas lu ça ? Si ? Ah oui, oh, mais notre sœur de Suisse, elle... Il n'y en a plus, on ne la trouve plus, c'est ça qui est malheureux. Ça... Ce serait intéressant. On ne veut plus entendre parler de ça. Vous voyez comme l'Église a changé, n'est-ce pas ? On ne veut plus entendre parler de ça. C'est plus bon. Alors, si ça n'est plus bon, c'est que la parole du Seigneur non plus n'est plus prise en considération. Mais moi, je trouve que c'est excellent. Ainsi, participer à l'enseignement est chose sérieuse et grave, puisqu'il y a ce triage en partie mystérieux. Ce n'est certainement pas une appartenance à l'un ou à l'autre des églises qui fournira la base du triage. Ce seront les positions des hommes uniquement connus de Dieu qui détermineront le choix. Mais il y aura un choix. Toutefois, la parole de Dieu nous donne bien des avertissements, bien des conseils, bien des consignes, nous permettant, si nous les suivons, de nous préparer au glorieux et indispensable départ. Efforçons-nous de résumer ce que nous dit la parole de Dieu d'une sage et réelle préparation à l'enlèvement. Tenez-vous prêts, soyez prêts. Je rappelle les textes, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, dans Matthieu 24, et dans Luc 12, 40. Matthieu 24, 44, et Luc 12, 40. Celle qui était prête, nous dit la parabole des vierges, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Matthieu 25, 10. Sans hésitation, nous pouvons dire que être prêt apparaît comme la condition indispensable pour entrer dans le royaume des cieux. C'est l'intention que nous avions donnée à notre séminaire, l'entrée dans le royaume des cieux, qui est figurée dans la parabole par la salle des noces. Aux vierges qui n'étaient pas prêtes, l'époux dit « En vérité, je ne vous connais pas ». Mais c'est quelque chose d'effrayant, de terrible ça. « Je ne vous connais pas ». Ça veut dire « je n'ai jamais eu de communion avec vous ». Connaître, c'est ça, c'est là. Ça ne veut pas dire « je ne savais pas que vous existiez », mais ça veut dire, n'est-ce pas, « je n'ai jamais eu de communion avec vous ». Nous n'avons jamais eu ensemble cette relation indispensable. Alors, c'est pourquoi ces vierges folles, n'avaient pas de réserve d'huile. Vous savez que la différence entre les vierges folles et les sages, c'est que les sages avaient un petit vase dans lequel il y avait une réserve d'huile. Tandis que les folles, elles, qui n'ont pas réfléchi, et puis qui se sont dit, bon, l'époux revient à 18h. Bon, prenons notre lampe, le réservoir est suffisant pour arriver jusqu'à 18h, on n'a pas besoin de s'inquiéter, hein. Bon, elles sont imprévoyantes. Et alors, les sages, elles ont vu les choses autrement. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles se sont dit, il est possible que le Seigneur, que l'époux ait un retard, mais enfin, elles ont pris une réserve d'huile. Et que signifie cette réserve d'huile? Eh bien, l'huile est le symbole, vous le savez, un des symboles du Saint-Esprit. Il n'y a pas de doute qu'elles avaient en elles une puissance d'esprit. Moi, je ne dis pas que c'est parce qu'elles étaient remplies du Saint-Esprit, il y a peut-être ça aussi, remplies du Saint-Esprit, mais disons surtout, c'est qu'elles avaient une vie intérieure authentique et bien fondée sur le Saint-Esprit. Elles avaient une vie intérieure, tandis que les autres avaient une vie superficielle. Une vie qui tenait aussi de l'esprit, n'est-ce pas? Le chrétien superficiel, instable, qui ne va pas au fond des choses, qui vit un peu dans le partage, ben, il a aussi quelque chose de l'esprit. Mais c'était une vie superficielle. Il n'y avait pas de profondeur. Et alors le Seigneur, l'époux est en retard. C'est exprès dans la parabole que c'est mis, n'est-ce pas? Son arrivée était attendue à 6h du soir, je suppose. Et puis, il ne vient pas. Il ne vient pas. Il est en retard. Alors, on s'endort, il arrive au milieu de la nuit, à minuit. Et à ce moment-là, d'un seul coup, on crie, « Voici l'époux !» Ah, il faut se réveiller, puis vite aller. Mais les sages, elles ont de l'huile en réserve. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, leur vie intérieure peut reprendre feu, même si elle s'était peut-être un peu ralentie, mais il y avait en eux de la profondeur, il y avait en eux une réserve de l'esprit, et alors leur vie a vite fait de briller à nouveau, tandis que les autres, non, l'esprit, elles n'en ont pas. Au moment où il faudrait le manifester. Alors, c'est quelque chose de tout à fait tragique, ça. Seigneur, ouvre-nous, disent les folles quand elles reviennent de la ville où elles ont cherché de l'huile. Ouvre-nous, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Elles arrivent là, n'est-ce pas, elles voient la porte fermée, elles ont beau taper à la porte, c'est nous, nous sommes aussi des vierges, nous étions là tout à l'heure, c'est nous, je ne vous connais pas, la porte ne s'ouvre pas, la porte est fermée. Là, on l'a dit souvent, n'est-ce pas, la porte se ferme. L'un sera pris, l'autre laissé, c'est une équivalence. Alors, ce que nous pouvons dire de la préparation à l'enlèvement, c'est que dans cette parabole, le Seigneur a prononcé deux paraboles, nous allons parler de l'autre ensuite, mais cette parabole nous montre l'état de cœur dans lequel il faut être trouvé pour être enlevé, pour entrer dans la salle. L'état de cœur. Il faut être dans un état de cœur qui est dû à l'esprit, à une forte imprégnation de l'esprit. Et puis, il y a l'autre parabole, c'est-à-dire la parabole des talents. Je prends Matthieu. Alors, dans cette parabole, vous la connaissez, je ne vais pas la relire. Nous voyons un homme qui part pour un voyage, et cet homme figure le Seigneur Jésus-Christ. Alors il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième serviteur. Bon, on n'en prend que 3 pour simplifier les choses, n'est-ce pas? La parabole doit être simple et claire. À chacun selon sa capacité. Ce que donne le Seigneur, c'est ce qui lui appartient, c'est sa richesse, c'est-à-dire, en somme, c'est le fruit de la rédemption. Le fruit de la rédemption est la capacité de pouvoir témoigner, apporter à d'autres le fruit de la rédemption, proposer à d'autres le fruit de la rédemption. C'est ça. Parce que ce que les serviteurs ont à faire, c'est de faire valoir. Ça n'est pas dans la parabole des talents, mais c'est précisé dans la parabole des mines. Dans l'évangile de Luc, faites valoir jusqu'à ce que j'arrive. Faites-le valoir. Il faut faire valoir la richesse du Seigneur. Faire valoir ce qu'il nous a donné. Alors certains ont une somme importante, d'autres un peu moins, et puis le troisième, il a la partie congrue, mais enfin il a quand même quelque chose. Et ce quelque chose, il aurait dû le faire valoir. Alors, le Seigneur revient longtemps après. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Ce qui montre bien que le Seigneur n'a jamais dit qu'il reviendrait tout aussitôt. Jamais caché qu'il y aurait un temps. Le discours eschatologique nous montre une profondeur de temps. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, un royaume s'élèvera contre un royaume, une nation contre une nation, et ce ne sera pas encore la fin. Voyez, par conséquent, le Seigneur a bien montré que des temps importants, des siècles, allaient s'écouler, hein. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Ah, il faut qu'ils rendent compte, comme nous, et nous aurons vraiment à rendre compte. Alors, le premier qui a reçu 5 talents s'approche, il présente cela au Seigneur, et son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Ce sera la même parole pour celui qui a eu 2 talents et qui en rapporte 2. Cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, on n'aura pas un petit peu la bouche ouverte, hein, d'étonnement, et presque disposé à dire au Seigneur, mais Seigneur, j'ai travaillé tant que j'ai pu, J'ai fait beaucoup de choses. Tu me dis que j'ai fait peu de choses. Mais j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé en Chine. Je suis allé dans telle terre de mission. Et puis là, j'ai bataillé. J'ai amené des âmes. Tiens, dans tel pays, là, il y a eu une église qui est constituée par mon ministère. Il y avait... elle était forte de 500 personnes. Dans une autre, il y en avait 600. Seigneur, tu me dis que je suis fidèle en peu de choses. Enfin, je pense qu'on ne tiendra pas ce langage. Mais c'est pour amener la juste interprétation de cette parole du Seigneur. Pourquoi cette parole du Seigneur, tu as été fidèle en peu de choses? Mais tout simplement pour ceci, même si le travail du témoin ou de celui qui avait un ministère, même si ce travail a été très conséquent, hein, bon, mais le Seigneur prononcera toujours cette même parole. Ce qui montre que ce que veut dire le Seigneur, c'est ceci. Je t'ai demandé de faire valoir le dépôt que je t'avais donné. J'avais fait en toi un dépôt et je t'ai demandé de le faire valoir. Tu l'as fait valoir, c'est bien. Ce que je note, c'est ta fidélité. Et je t'ai donné ce dépôt pour voir ce que serait ta fidélité pendant le temps où tu serais sur la terre. Ce qui m'importe, c'est cela, ta fidélité. C'est ta fidélité. C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce que je demande. Tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses, tu dis que tu as sauvé des centaines et des centaines d'âmes. Non, tu ne les as pas sauvées. Tu as été fidèle. C'est l'Esprit Saint, c'est mon Esprit qui les a sauvées, pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. S'il y avait une église constituée, elle était là. C'était parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans cette église. C'est pas toi. Si tu avais été tout seul, tu aurais fait des dégâts. C'est pas toi. Mais ce que j'ai à noter, c'est que tu as été fidèle. Chers amis, c'est ça que le Seigneur nous demande. Parce que le travail de tout sens, c'est lui qui le fait. Et lui qui fait le travail. Et la preuve, c'est que nous voyons actuellement le Saint-Esprit plutôt dans un éloignement de la terre. Et bientôt, il s'éloignera tout à fait. Et alors, à ce moment-là, personne ne pourra travailler. On ne peut pas travailler sans le Saint-Esprit. Mais c'est la fidélité qui est notée. Tu as été fidèle. Alors maintenant, on va... je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, on va te confier vraiment les grandes responsabilités, de véritables responsabilités. Maintenant. Ah là, tu vas avoir des responsabilités patentes, vraiment. Ce qu'il fallait, c'est que ta fidélité fût démontrée, fût véritablement mise en évidence. Tu l'as fait, c'est bien. Mais alors, le pauvre homme qui vient avec son talent, n'est-ce pas, et qui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il est honnête, cet homme-là. Il est honnête, il rend le talent qu'il a reçu. Il l'a pas dilapidé, il le rend. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce malheureux homme en enfer. Ah, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais Alors, voyons, questionnons-nous. Il était pourtant parmi les serviteurs du Seigneur. Il a reçu quelque chose, peu, mais il a reçu quelque chose. Alors, si nous traduisons dans notre jargon à nous, nous allons dire, mais est-ce qu'il était converti? Est-ce qu'il était membre de l'Église ou non? Hein? Vous voyez? Ben, je n'en sais rien, moi. J'en sais rien. Mais enfin, il était là, parmi les serviteurs du Seigneur. Et puis le voilà jeté en enfer. C'est tout ce qu'il faut voir. Moi, je ne sais pas s'il était converti ou pas. On ne va pas décider ça arbitrairement. Hein. Voilà, le voilà jeté en enfer. C'est grave tout ça. Alors, cette parabole, la parabole, nous avons dit, des vierges, nous montrait l'état dernier au moment du retour. L'état dans lequel il faut que nous soyons trouvés au moment du retour. Et ça, cette parabole des talents nous montre ce qui doit apparaître tout au long de notre vie chrétienne, depuis le moment de notre conversion jusqu'au moment où le Seigneur revient. Tout au long, n'est-ce pas, voilà, ce qu'il faut trouver, c'est la fidélité. La fidélité. Voilà, ce que veut le Seigneur. Alors, soyez prêts, tenez-vous prêts, nous avons déjà deux enseignements qui sont précieux. Pour être prêt, il faut veiller, nous dit le Seigneur. Il le dit suffisamment, il le répète, c'est-à-dire prendre chaque jour. Quand le Seigneur emploie le terme de veiller, veillez et priez en tout temps, veillez et priez, car vous ne savez pas quand votre Seigneur viendra. Et quand il emploie ce terme, nécessairement, il veut dire que chaque jour, il y a à prendre les soins nécessaires. Chaque jour. Parce que veiller, c'est tous les jours. On ne peut pas dire on va veiller le mercredi, et puis on va ensuite rien faire jusqu'au mercredi suivant. Hein? Non, c'est tous les jours. Le sens du terme inclut cette signification, cette portée, tous les jours, chaque jour, c'est le rythme de Dieu. Et puis l'éveil, veiller, c'est utiliser l'éveil. Et l'éveil, ce sont les dernières heures du jour. Hein? Dernières heures du jour. Alors, si nous rentrons du travail pour mettre les pieds sous la table, la serviette au cou, et manger un bon dîner, et puis ensuite, je passe mettre dans un bon fauteuil. Moi, j'en ai des bons maintenant chez moi, parce que jusque-là, je m'en étais passé, puis maintenant, je les apprécie. Alors, attention au bon fauteuil, n'est-ce pas? Alors, se mettre dans un bon fauteuil, et puis regarder la télévision, par exemple, hein, faire autre chose, ou jouer à je sais pas quoi, moi, n'est-ce pas, ou parler. Bon, alors si on fait cela, n'est-ce pas, eh bien, on va gâcher le temps du soir, qui est pour un temps pour le Seigneur. Je rappelle ce que j'ai déjà dit maintes fois, et que notre frère a enregistré, il va se dire, mais il dit toujours la même chose, c'est vrai, mais Pierre aussi faisait ça. J'ai rappelé cette parole de quelqu'un, que le soir, c'est le dimanche de la journée. C'est-à-dire, c'est une période qui est comme le dimanche au milieu de la semaine, dans la semaine. C'est le dimanche, eh bien, on le réserve au Seigneur. Et le soir, eh bien, c'est comme un dimanche pour la journée. Le dimanche. Alors, vous savez, la télévision, puisque on en parle et que ça ne fait que prendre de l'importance, du volume. Il y a la télévision par câble, maintenant il y a la télévision par satellite. On me dit qu'en Amérique, maintenant, en moyenne, la plupart des Américains sont 5 ou 6 heures devant la télévision par jour. Et vous croyez qu'on peut attendre le Seigneur comme ça? Moi, j'ai regardé un peu la télévision, j'en ai pas, mais j'ai regardé un peu. Figurez-vous que quand, cet hiver, nous étions dans un appartement loué en attendant que notre logement soit prêt à Nîmes. Et puis, nous étions les locataires d'une dame exquise, extrêmement gentille. Et alors, un jour que nous étions partis, elle avait une double clé. Alors, nous arrivons dans notre appartement, nous voyons un magnifique poste de télévision. Alors je dis, tiens, le diable est passé par là. Et puis on trouve sur la table un petit mot de notre excellente propriétaire qui disait, j'ai voulu vous faire plaisir, alors je suis allé acheter d'occasion ce poste de télévision pour le mettre, car ça me faisait quelque chose de savoir que vous n'aviez pas la télévision. Bon, alors, étant donné cela, il nous est arrivé de regarder certaines émissions là, n'est-ce pas ? Et cela m'a confirmé, par cette expérience, cela m'a confirmé dans l'idée que c'est excessivement dangereux. Excessivement dangereux. Moi, je ne vous dis pas de jeter vos télévisions aux rats et aux chauves-souris, ça se fera bientôt, ça. Mais de tout sens, n'est-ce pas ? Il faut réfléchir à ça. Il faut prendre garde à cela. C'est dangereux. C'est dangereux. Bien. Enfin, laissons ce chapitre de la télévision. Bon, alors, nous arrivons maintenant au jour et à l'heure. Le jour et l'heure. Le Seigneur a signifié nettement que le jour et l'heure de son retour ne pourraient pas être connus. Et l'on comprend très bien la haute raison de Dieu à ce sujet. Le temps de l'Église dure depuis plus de 19 siècles. Or, tout membre de l'Église ne peut veiller et se tenir prêt que pendant sa vie sur la terre. Hein ? Pendant sa vie sur la terre. Or, pendant ces 19 siècles et demi, il y en a eu des générations de chrétiens. Lorsque quelqu'un meurt en son corps, il ne peut plus rien ajouter à sa préparation. C'est fini. Il ne peut plus rien ajouter. Et en quelque sorte, pour lui, sa mort équivaut au retour du Seigneur. Je ne veux pas dire qu'il faut se contenter de cette explication-là, n'est-ce pas, pour dire, eh bien, le retour du Seigneur, c'est ça, n'est-ce pas? Non. Mais pour lui, ça équivaut au retour du Seigneur. Parce que là, il ne peut plus rien faire. Il va attendre, il va être de ses âmes sous l'autel, ou de ces esprits des justes qui attendent le moment de la résurrection. Il ne peut plus rien faire, n'est-ce pas ? Tout est joué, si je puis dire, pour lui, n'est-ce pas ? Par conséquent, veiller et prier n'a pu le faire qu'en son temps. C'est pour ça qu'il fallait que tout au long des siècles et années du christianisme, de l'Église, il y ait cette consigne que chacun l'ait pour soi-même et puisse l'observer en son temps. Tout homme aussi peut mourir, disons, d'un moment à l'autre, donc la consigne du Seigneur, tenez-vous prêt, est de nature à être observée par tous les chrétiens, même s'ils sont jeunes, tout au long du temps de l'Église. Il m'est arrivé d'entendre certaines personnes prétendre que si le jour et l'heure doivent rester inconnus, l'année tout au moins pourrait être connue. Cette pensée s'écarte pourtant nettement de la parole et elle va même jusqu'à contredire la parole. En effet, pour situer dans le temps un jour, il faut connaître sa place dans la semaine. Savoir quel jour de la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, il faut savoir quel jour. Bon. Et puis, il faut savoir quelle semaine, le quantième par conséquent de ce jour dans le mois. Et puis, il faut aussi connaître le mois. Et il faut connaître l'année. Par conséquent, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, cette manie de discuter, de discutailler, enfin, les gens qui disent on ne sait pas le jour et l'heure, mais on peut savoir, etc. C'est finassé, ça, avec la parole de Dieu. Si le Seigneur dit qu'on ne peut pas connaître le jour et l'heure, c'est qu'à dire, dans les temps, on ne peut pas situer ce jour-là. On ne peut pas le situer. Bien. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cela suffit à annoncer clairement que le moment du retour ne pourra jamais être situé dans le temps. Et ce fait se renforce de l'image qu'utilise la parole « Je viens comme un voleur dans la nuit, un voleur dans la nuit, je viens comme vient un voleur ». On ne sait pas à quel moment le voleur va venir, il ne vient pas mettre sa carte de visite dans la boîte aux lettres, n'est-ce pas, avant de venir, ben, non, il ne prévient pas. Et le voleur, on ne sait même pas en quelle année il vient, n'est-ce pas, comme vient un voleur dans la nuit. Enfin, l'apôtre Paul, lui, emploie une expression de portée générale. Il dit « pour ce qui est des temps et des moments ». Hein? Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Alors, des temps et des moments. Vous savez que que le Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Cela est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 et 2. Seule l'approche du jour, l'approche de ce jour, peut faire l'objet d'un discernement. En effet, Jésus nous a dit, « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Dans Luc 11, 31. Et puis dans Matthieu 24, 33, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Bon, alors là, on sait que c'est imminent, est imminent. Or, les choses auxquelles il est fait mention dans le discours eschatologique du Seigneur, et notamment l'accroissement de l'iniquité, proclame à coup sûr que le temps du retour du Christ est bien proche aujourd'hui. Nous savons qu'il est proche. Nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure sur les signes. Mais je voudrais aussi vous parler du millénium en tant que semaine sabbatique. Puisque les événements nous montrent que la parousie est maintenant proche, ça c'est certain, qu'elle est proche, nous sommes à 19 siècles et demi, disons-nous, du commencement de l'Église environ, n'est-ce pas? Bien, il y aura bientôt, par conséquent, 20 siècles, c'est-à-dire 2 milléniums. Bon, alors, ne faut-il pas accorder un certain crédit à la division du temps en période de 7 ou semaine? Cette division est en effet bien caractérisée dans l'Ancien Testament. D'abord, le sabbat. Le sabbat, le septième jour, la semaine proprement dite, de 7 jours, la semaine est de 7 jours. Puis la Pentecôte israélite, 7 semaines après la Pâque de l'Éternel. 7 semaines. Donc là, il y a une période de 7 fois 7, 49, 49 jours, et c'est le 50e jour que a lieu la Pentecôte. Il y a la fête des expiations, qui durait 7 jours au 7e mois, toujours le 7. Hein. Il y a la semaine des années, qui aboutissait à l'année sabbatique. 49, la 50e année. la semaine des semaines d'années. C'est-à-dire 7 fois, 7 années, 49 ans. Lévitique 25, 8, 12, suivi de l'année du jubilé. Oui, j'avais dit tout à l'heure 49 ans, la semaine des années. 7 années, il y avait d'abord 7 années, n'est-ce pas? Puis ensuite 7 fois 7 années. Et il y a la captivité à Babylone qui fut de 70 ans selon la prophétie de Jérémie au chapitre 25. Il y a la grande période de Daniel, le chapitre 9, qui va jusqu'à l'avenue du Messie, pense-t-on bien, n'est-ce pas, et qui est divisée en 70 tranches de 7 ans, c'est-à-dire en 490 ans. Le nombre 7, donc, charpente le déroulement des temps particuliers, des temps bibliques, si vous voulez, des temps particuliers. Comme d'ailleurs, nous l'avons montré dans une autre étude, le 7, le nombre 7, charpente aussi pas mal de faits en astronomie et en biologie. Hein. Le temps de gestation de différentes espèces est un multiple de 7. J'ai eu l'occasion de dire cela. Hein. Il n'y a pas de doute, ce nombre 7 est impressionnant. Dieu l'a utilisé. On dit que 7 signifie la totalité, la perfection. Alors, nous résumons. Résumons cette question-là. Il y a la semaine de 7 jours, la semaine des semaines... 49 jours, la semaine de mois, la semaine d'année, la semaine de semaine d'année, la semaine des temps prophétiques, et ne peut-on pas penser à la semaine des éons? Il y a un terme en grec traduit par monde dans le Nouveau Testament, la fin du monde, alors que c'est la fin de l'aïon, qui a donné en français le terme éon, c'est-à-dire la fin de l'âge. La fin du monde, c'est la fin de l'histoire. Alors, ne peut-on penser à la semaine des olams ou des éons? Alors, la Bible d'Arbi, dans ses notes, nous donne une chronologie que voici en abrégé depuis Adam, c'est-à-dire la création de l'homme, jusqu'à la naissance d'Abraham, elle voit 2008 années. Depuis Adam jusqu'à la naissance du Messie, elle voit exactement 4000 ans, c'est-à-dire 4 millénaires. Si le temps de l'Église était appelé à durer, je mets ainsi, n'est-ce pas, attention, n'en connaissons pas encore tout à fait le moment de l'achèvement, si ce temps devait durer 2000 ans, l'ensemble des temps représenterait 6 millénaires. Et le millénium, s'ouvrant ensuite, constituerait le 7e millénaire, le millénaire du repos. Donc en tout, une semaine de 7 millénaires, une semaine d'éon. Et souvent, pour appuyer cela, on rappelle que le Seigneur a dit dans un psaume, et Pierre le reprend, que pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Bon, j'ai toujours pensé que cela pouvait avoir une signification plus générale, c'est-à-dire nous dire, vous savez, pour le Seigneur, un petit laps de temps, pour lui, est pareil à un grand espace de temps. Voilà, le Seigneur n'a pas ne compte pas pour lui-même, ne compte pas le temps. En ce qui le concerne. Bon, enfin, certains disent que 1000 ans est comme un jour. Alors, ils appuient avec ça ce que je viens de vous dire de cette, ce millénium intervenant comme le sabbat d'une semaine d'éon. C'est un plan qui attire l'intérêt, il n'y a pas de doute, mais il n'est pas exposé et affirmé d'une façon directe dans la Bible. Alors, je le mentionne, mais je ne le mentionne qu'en raison de ce qu'il est assez connu et de ce que certains chrétiens y attachent leur foi. Moi, j'avoue qu'il m'impressionne, n'est-ce pas? Mais enfin, nous pouvons garder notre liberté d'adhérer à cette explication ou non, n'est-ce pas, puisqu'elle n'est pas impérativement donnée par le texte biblique. Elle résulte. Mais enfin, il faut bien dire, c'est tout de même quelque chose, hein, n'est-ce pas? Si nous n'étions pas en vue de la fin, si nous ne voyons pas maintenant tous les signes se cumuler pour nous avertir et nous dire « attention, ça ne peut plus durer », alors peut-être qu'à ce moment-là, nous n'en tiendrions pas compte. Mais précisément, alors que nous arrivons bientôt à l'an 2000, hein, ça ne veut pas dire d'ailleurs que la durée de l'Église sera exactement finira exactement en l'an 2000. Hein. Bon, mais enfin, ça nous impressionne, cette question-là nous impressionne. C'est pourquoi je voulais vous en parler. Bon, eh bien, écoutez, avant d'aborder les signes annonciateurs, je vais vous laisser la liberté.